Histoire de France et d'ailleurs avec René-Joseph Irmana. Et aujourd'hui, on parle des azous.
Bonjour. Donc les azous, c'est le thème de l'émission. Mais préalablement, j'ai envie de faire un petit retour sur l'émission de mardi, du mardi 13 février, sur Louis XI. Voilà. C'était à propos de l'extrait que j'ai passé, en intermède, du film Le Pouvoir Fracassé, du téléfilm Louis XI, Le Pouvoir Fracassé. Alors, d'abord, au niveau de l'énoncé des comédiens, il y avait Jacques Perrin, dans le rôle de Louis XI, et Florence Pernelle, hein, que j'avais pas cité, qui jouait la fille aînée de Louis XI, Anne de Beaujeu, hein, il était en fin de vie, et il l'avait désignée comme régente, puisque le successeur, son fils Charles VIII, était un enfant de 12, qui allait sur ses 13 ans, et donc Anne était désignée l'aînée. C'était le seul fils, et avec l'appui de son époux, Pierre de Beaujeu. Hein, voilà. Et donc, ce fut une régence. Alors, pour peut-être. Et l'émission, enfin, l'extrait qui a été diffusé évoque un complot. Alors. Qui aurait émané de Louis d'Orléans. Alors je ne sais pas si c'était romancé, mais enfin, effectivement, qui était Louis d'Orléans? Louis d'Orléans, c'est le futur Louis XII. Il régnera après son cousin Charles VIII. C'est tous des cousins, hein, qui descendent, en ce qui concerne Louis d'Orléans, qui descendent du duc d'Orléans, de Louis d'Orléans, frère de Charles VI. Donc la branche aînée, c'était Charles VI, le fou, Charles VII, père de Louis XI, et puis Louis XI, et successeur de Louis XI, son fils Charles VIII, voilà. Et duc d'Orléans, Louis d'Orléans était le frère cadet de Charles VI, qui est assassiné, c'est la querelle des Armagnacs et des Bourguignons, par donc le clan Bourguignon, c'est-à-dire ses oncles. Il y avait un conflit de pouvoir, hein. Le duc de Bourgogne, voilà. On ne revient pas à ça, c'est une autre histoire, c'était en amont. Et donc, Louis est le fils de Charles d'Orléans, le fils donc de Louis d'Orléans, le prince assassiné, le prince poète, hein. Vous savez qu'il avait été longtemps fait prisonnier en Angleterre. Et donc, il complotait, le jeune Louis. C'était un enfant tardif, son père l'avait eu à 60 ans, hein, sa mère avait, son père était mort, donc, Louis, pour la suite de la succession, donc il a succédé effectivement à Charles VIII, qui n'a pas eu d'enfant. Charles VIII a épousé Anne de Bretagne, sans enfant mâle, hein, et d'ailleurs sans enfant tout court, ils sont tous morts, et Louis, qui était donc le cousin, a épousé Anne, en devenant Louis XII, hein, voilà. Et ils ont eu deux filles, Claude et René, voilà. Claude qui a épousé alors le successeur de Louis XII, toujours un cousin issu du duc d'Orléans, assassiné de Louis, François d'Angoulême, François Ier, voilà. Et donc il évoque dans l'intermède, évoque un complot de Louis d'Orléans. Effectivement, il complotait. Il avait été emprisonné sous la régence d'Anne de Beaujeu. Il était d'ailleurs, semble-t-il, amoureux. C'était à la fois une romance, mais dans l'histoire d'Anne de Bretagne. Voilà. Il y avait une histoire, une idylle avec Anne de Bretagne, mais qui a été contrainte d'épouser son cousin Charles VIII. Voilà. Mais in fine, il a épousé Anne, puisqu'en deuxième noce, après la mort de Charles VIII, elle a épousé donc le cousin d'Orléans, qui est devenu souverain, qui est devenu roi sous le nom de Louis XII, et apparemment bon roi, le père du peuple. Et à titre, pour compléter l'épilogue, on sait qu'il avait été contraint, Louis, le jeune Louis d'Orléans, il avait 15-16 ans, c'était un beau prince, il avait été contraint d'épouser Jeanne de France, la deuxième fille de Louis XI, qui était, elle avait une belle âme, elle a été élevée au rang des hôtels, elle était faite sainte, c'était une vraie sainte, hein, authentique, mais hélas, je ne sais pas si on peut dire qu'elle était monstrueuse, mais physiquement, elle était très déformée, elle boitait, on l'appelait la boiteuse d'ailleurs. Enfin, et Louis, le roi, donc Louis XI, avait contraint Louis d'Orléans, 15 ans, a épousé sa fille, en pensant, peut-être une idée préconçue, mais c'était vrai, qu'il n'aurait pas d'enfant. Voilà. Il voulait éteindre la branche concurrente, la branche des Orléans. Et donc, Louis, devenu roi, à la mort de Charles VIII, Charles VIII est mort à 28 ans, donc très jeune, et pour épouser Anne de Bretagne, eh bien, il a dû faire annuler le mariage avec Jeanne. On avait fait une émission sur Jeanne de France, le procès, etc. Voilà. Donc, c'était pour situer un peu ce cadre et un petit peu, j'allais dire, cet épilogue. La régence qui a suivi était une régence énergique. Anne et Pierre de Beaujeu, voilà. Ils ont tenu la barre fermement. Hein. Donc, on passe au sujet du jour. C'est pas la même époque. C'est donc, vous en avez peut-être entendu vaguement. Alors, ma grand-mère, qui était née en 1898, elle avait encore cette expression quand j'étais enfant, les azous, quand elle parlait de quelqu'un de farfelu, d'original, de déjanté un peu, elle disait, c'est un vrai zazou. Et donc, qui étaient les zazous? C'était un mouvement pendant la guerre, éphémère, en 40, 41, 42. Alors, peut-être on peut le prolonger en 44. C'était des jeunes qui étaient contre l'ordre moral établi par le régime de Vichy et qui affirmait notamment, alors c'était d'ailleurs la passion du jazz, mais avec une ouverture, comment dire, au-delà du jazz. D'ailleurs, le jazz original, pour les puristes, avait été élargi, si on peut dire. C'était pas des puristes initialement qui écoutaient du jazz, qui était une musique condamnée par les Allemands, hein, par le régime nazi. C'était une musique de nègre, une musique dégénérée. Mais là, le mouvement zazou ou swing a élargi, c'est-à-dire que c'était plus le point de vue musical des puristes, des théologiens, si on peut dire, des bons accords, des bons, voilà, qui étudiaient les jazzmen d'origine, je ne sais plus, Benny Goodman, enfin, donc, et qui, ça avait évolué vers une musique populaire, swing, y compris avec de la variété. Voilà. Mais par contre, ils s'exprimaient aussi dans le vêtement, dans l'extravagance, l'excentricité. Alors, au préalable, peut-être on peut évoquer d'autres mouvements analogues, mais là c'est très spécifique, je veux dire, c'est un peu en porte-à-faux. Ça se situe pendant l'occupation. Avec, je répète, 40, 41, 42, on peut le prolonger jusqu'en 44, voilà. Et ça se prolongera au-delà, finalement, d'une façon autre, mais après la libération, avec ces jeunes qui sont dans les caves, Saint-Germain-des-Prés, avec Boris Vian, il y aura toujours le jazz, moins peut-être cette excentricité voulue, et puis avec Juliette Gréco, la muse, Saint-Germain-des-Prés, Jean-Paul Sartre, enfin, tous ces personnages, hein, qui écouteront, là, oui, c'est toujours les caves, les danses dans les caves, le jazz, voilà, qui est importé, je pense, depuis la guerre de 14, il me semble, depuis les années folles. Il y avait le jazz, il y avait le charleston, etc. Mais là, c'est vraiment l'entrée en puissance, avec les Américains, hein, aussi, à la libération. En 44, mais ils existaient déjà plus ou moins clandestinement. Alors, d'autres mouvements antérieurs peut-être qu'on peut évoquer aussi, qui n'ont rien à voir mais qui étaient plutôt vestimentaires, on les cite simplement au fil des époques. Alors, il y a eu pendant au Moyen-Âge, là je parlais de Louis XI justement, c'était l'époque au 15e siècle. Il y avait ces chaussures qu'on appelait des poulaines, alors qui étaient un peu comme des chaussures très, très longues, pointues, et plus on était élevé, je crois, dans l'aristocratie, plus elles étaient longues et pointues, parfois rattachées avec une chaîne, la pointe rattachée avec une chaîne par une sorte de jarretière. Enfin, on les voit sur les images d'époque. Voilà. Donc c'était aussi des extravagances. Il y avait la fraise à l'époque de la Renaissance, une pièce de collerette. Hein, on le voit par exemple Henri III, enfin, il porte cette espèce de collerette blanche autour du cou. Voilà. Il y a aussi, alors bien sûr, comment dire, en se rapprochant dans le temps, enfin les années 20, les années 20, on en a parlé, avec eh bien, les années folles à la sortie de la guerre, qui se terminent justement à l'aube de la guerre de 40, hein, 39. Alors, il y avait les garçons, la mode de la garçonne pour les filles, c'était le Charleston. Voilà. Ensuite, il y a eu, dans les années 60, les yéyés, qui c'était aussi une espèce de mode. On cassait les tables dans les concerts, que c'est tout, quoi, c'était... Il y avait un déchaînement aussi de la jeunesse, hein. Dans les années 70, il y a eu les hippies, peace and love, hein, là aussi, c'était avec la drogue, avec l'amour libre, etc., hein. Toutes les époques, et puis il y a eu même des modes spécifiques, alors comme, mais bon, un peu extravagantes, par exemple, ah bah oui, bah déjà en remontant au Second Empire, la crinoline, vous savez, ces crinolines, ces robes amples qui étaient autour de, portées par des espèces de paniers, vous savez, voilà. Et même sous la Troisième République, prolongement des crinolines, il y avait cette silhouette, on avait fait une émission sur les modes, enfin. Pour les femmes, notamment pour les femmes, on parlait des faux culs, parce qu'il y avait une espèce de crinoline, mais après ça se cintrait au milieu du corps, et c'était au niveau, on parlait des faux culs, c'était exactement le terme, puisque à l'arrière, c'était très ample, c'était porté par une demi-crinoline, les mini-jupes aussi dans les années 70, qui exprimaient aussi une volonté de liberté, voilà, les filles avaient ces mini-jupes. Il y avait eu aussi à une époque, mais toujours années 60-70, mais là c'était les bas rouges ou bleus, enfin voilà. Alors il y a eu aussi un peu les robes pour hommes, mais ça n'a jamais pris, hein. Il y a parfois des défilés de mannequins avec des hommes en robe, hein. Voilà, mais encore une fois, ça n'a pas été concluant, hein. Donc on vient vraiment à nos azous, qui sont issus de la guerre, donc ils apparaissent pendant la guerre de 40, dès l'occupation. Là, c'est l'occupation. On n'a pas résisté. Dès juin 40, la France est envahie, sauf la zone sud, dite libre, donc avec l'accord et l'armistice de juin 1940, je dirais le 11 juin, j'ai peur de. Donc, juste avant le discours de De Gaulle, en contrepoint. À Londres, Pétain signe l'armistice avec les Allemands. Et donc il y a cette zone sud, mais la zone nord est carrément occupée. Alors je donnerai des descriptions de ces jeunes qui sont contre cet ordre moral imposé par Vichy, à savoir, ça tient dans le slogan, on peut dire, ou dans le famille, travail, famille, patrie. Là, ils sont contre tout ça. Travail, famille notamment, mais un peu patrie peut-être. C'est en cela que c'est un peu en porte-à-faux, si vous voulez, parce que ils font montre de je m'en foutisme. Et je pense que ce sont plutôt des jeunes, un petit peu d'une certaine classe sociale quand même. Ils ont quelques moyens, je pense, financiers. D'ailleurs, certains pratiqueront le marché noir. Hein. Donc, on citera. Alors, le vêtement, je ferai des descriptions des vêtements. Il y a beaucoup de caricatures, voilà, avec les vestes longues qui viennent à mi-cuisse. Il y a le chapeau à l'arrière, le parapluie, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors, le parapluie, on ne sort jamais, même s'il pleut. C'est un accessoire comme ça, décoratif. Les chaussures carrées, les chaussettes blanches, la cravate très étriquée avec juste un point, le col très haut, le col au-dessus de la chemise blanche qui est retenu par une épingle, les cheveux longs dans le cou, voilà. On reviendra plus avant sur. D'ailleurs, c'est petit. Et puis avec beaucoup de poches à la longue veste. Alors les pantalons étroits. Très étroit et assez haut. Et pour les femmes, c'est pas la mini-jupe, hein, mais c'est la jupe courte pour les coques au-dessus du genou. Voilà. Les cheveux aussi ramassés, hein, longs. Voilà, donc, et c'est la musique swing, hein, c'est-à-dire que c'est un ersatz. Il y a le jazz et puis un ersatz, c'est-à-dire ça devient plus populaire. Hein, ça devient, voilà. Et puis. C'est quand même un refus de cet ordre moral instauré par Pétain. On sait par exemple que c'est pendant la période 40-45, le régime de Vichy 40-44, par exemple, il y aura une avorteuse sera exécutée, il y aura Donc l'avortement est sévèrement condamné, c'est la politique de l'Église catholique est très subventionnée, voilà, etc. Ordre moral, encore une fois. Et donc, c'est pas, est-ce une opposition politique? C'est plutôt une espèce d'affirmation d'une jeunesse, mais on y reviendra à la fin peut-être. Commentaire, c'est un petit peu bizarre. Ça laisse sur sa faim, ça donne une impression mitigée, parce que c'était l'occupation, c'était les restrictions, les gens crevaient de faim, de froid. Il y avait quand même déjà la chasse aux juifs, et cette jeunesse-là, quand même, ben bon, ils s'en foutaient un peu de tout, quoi. J'ai l'impression qu'ils ne se situaient pas dans le bon mouvement. Ils étaient un peu en porte-à-faux. Donc, hiver 40-41, donc l'armée allemande occupe la France. Paris a été est occupé. Paris a été déclarée ville ouverte. Il y a une vague de froid. Il y a les restrictions. Il y a les cartes, bien sûr, rationnement. Hein. Les gens crèvent de faim. Le marché noir. Voilà. Alors, on cite un point fort, un point d'orgue, le 19 décembre 1940, salle Gaveau. Alors c'est l'autre club de France, donc c'est une sauce de musique, de jazz, qui promeut le jazz. Autre club de France, alors c'est Charles Delaunay qui en est le secrétaire général et qui organise un concert donc de jazz dans la salle Gaveau. Et c'est le premier grand festival de jazz. Alors là, c'est un triomphe total. C'est un triomphe au point que alors on organise un deuxième concert le surlendemain qui sera encore plus triomphant avec du public qui attend dans la rue. Voilà. Et alors là, c'est une évolution quand même parce qu'on va vers, je l'ai dit, c'est ce qu'on parle de swing, c'est-à-dire que c'est une musique légère où on danse, c'est plus un public averti qui écoute les accords, qui analyse. Voilà. C'est des jeunes qui bougent, qui chahutent, voilà. Ça se démocratise, ça se popularise. Le public est élargi, hein. Et donc, je l'ai dit, le concert est bissé, vu le succès. Et le surlendemain, c'est un succès encore plus grand. Voilà. Donc, alors, on peut citer bien sûr Django Reinhardt, le musicien de Zigane. Hein. Noël Schibbous, enfin il y a beaucoup de noms célèbres à l'époque, mais qui le sont restés. Alors je répète, le jazz lui-même se trouve un petit peu. Il y a déjà aussi un petit, pas un conflit, mais entre les théologiens purs et durs du jazz original et ces gogos. Ces zozos qui dansent sur du swing et qui va vers la variété, quoi, voilà. Et donc, il y a déjà une petite désunion, quoi, si on peut dire. Ouais. Mais alors, quant aux Allemands, on le sait qu'ils condamnaient la musique de jazz comme une musique de nègres, hein, dégénérée. Ben, il y a quand même une certaine tolérance au niveau des Allemands. Alors, c'est pas une opposition politique, hein, voilà. Vigoureuse, et bon, on laisse faire, on tolère, c'est dans les caves, à condition qu'il n'y ait pas le moindre incident. Hein, voilà. Alors on parle des petits swings, une jeunesse donc turbulente qui sort donc de la coterie, je répète, des vrais amateurs, les puristes. Et donc il y a une évolution même vers la variété avec notamment Johnny Hess, qui est il est oublié aujourd'hui, mais il était en duo avec Charles Trenet à l'origine. C'était Johnny et Charles. Donc, il était aussi compositeur, Johnny Hess. Il a même composé une chanson pour Édith Piaf. Il a composé Monsieur Saint-Pierre. Là, il a écrit. Mais Charles Trenet lui a fait une carrière en solo glorieuse, comme l'on sait. Alors, Johnny Hess, je suis swing. On va écouter, hein, sa chanson. Et donc il y a un peu le meilleur et le pire dans tout ça, du point de vue musical. Hein. Il y a un mélange. Donc, et puis il y a l'onomatopée. Alors Zazou, Zazou, on l'écoutera. Oudé, enfin, qui revient. Voilà. On utilise le terme, l'expression Zazou. Alors, il y a aussi cette mode vestimentaire, j'en ai fait un petit descriptif. J'y reviendrai. Donc, parce qu'il y a beaucoup de caricatures, je les ai notées. Et puis, c'était condamné par la presse officielle, bien sûr, la presse collaborationniste, comme une dégénérescence, une jeunesse lamentable. Voilà. C'était assez haineux, quand même. Hein. Les discours et les. C'était une charge contre ces petits swings, voilà, qui deviennent, donc on l'a dit, les Zazous. C'était à l'époque un terme péjoratif. On parlait d'une tribu, de sauvages, entre guillemets. Voilà. Et donc, on parlait dans les descriptions, je répète, les articles de presse, un voyage en pays Zazou. Voilà. Donc c'était plutôt méprisant. Voilà. Alors on citera, au niveau des vêtements, je veux dire que leur pratique, c'était d'avoir, tout était, enfin les cheveux longs, enfin dans le cou, les grandes vestes à mi-cuisse, avec beaucoup de poches. Leur démarche aussi, ils avaient une démarche un peu, je sais pas, pas chaloupée, mais traînante. D'abord, certains avaient des chaussures de daim, mais bon, il y a des descriptions un peu variables. Hein. Voilà. Ils faisaient des grands pas, grandes enjambées, traînant, le buste en avant. Voilà, c'était une silhouette un petit peu dégingandée, quoi, voilà, voulue. Hein. Alors, on cite ce règlement du 19 mai 1942 par le comité d'organisation du vêtement. Qui avait instauré un costume national. Alors je pense qu'à l'époque, on pouvait échanger, c'était un recyclage, mais vu la pénurie, on pouvait échanger deux vieux complets usagés contre un complet neuf, contre un costume neuf. Alors le costume était très rigoureux, hein, très sobre. Hein, voilà, c'était l'économie de tissu. Hein. Il y avait aussi. Ils sont exclus parce qu'ils sont. Ils sont pas citoyens, puisqu'ils sont ces azous, ces swings, à l'encontre de la politique dominante, eh bien, ils mettent des étoffes, beaucoup d'étoffes inutiles, voilà. Donc ces poches à rabat, hein, et ces longs vêtements, ces longs manteaux. Voilà. Et alors, il y a aussi un décret qui est à contresens, en quelque sorte. Hein. Décret du 27 mars 1942, alors c'est autre chose, c'est les cheveux, ils ont les cheveux longs. Alors à l'époque, on utilise les cheveux, on les recycle. Dans les salons de coiffure, il y a un système de recyclage avec, alors je n'ai pas le détail, on récupère les tignasses, hein, dans les salons de coiffure, on en fait du fil, et avec ce fil, on en fait des pantoufles. C'est une usine du Calvados qui pratique ça. Alors eux, nos Zazous, mâles et femelles, eh bien, au contraire, ils ont les cheveux longs, donc c'est pas très citoyen, quoi. Voilà. Et donc ils deviennent le symbole de la décadence. Plus élégamment, certains on parle d'exilés moraux. Voilà. Alors on cite aussi parmi ces personnages Ferdinand Lope, LOP. Alors je regardais dans. Pourtant il a un look assez traditionnel, avec des petites lunettes rondes, un chapeau, mais enfin, c'était l'original par excellence. Il y avait beaucoup de, notamment les étudiants, parce qu'il y avait aussi des azous intellectuels qui parcouraient le boulevard Boulmiche. C'était l'extravagant, hein. C'était le symbole, l'arbitre des extravagances. Hein, voilà. Il y avait aussi, je répète, ces azous un peu intello, hein, qui avaient un peu le culte aussi du ridicule. Voilà. Et donc, c'était, je répète, il se posait contre les interdits de l'ordre nouveau. Il y avait aussi au niveau des livres, ça c'est peut-être. Ils prenaient quelques risques hein, quand même, hein, mais c'est quand même limité. Ils n'ont pas été trop inquiétés. Ils ont subi quelques brimades, mais on verra que certains avaient même été emmenés à Drancy. Hein, ils avaient été raflés, mais on les a relâchés. Ils étaient plutôt inoffensifs d'un point de vue politique. Hein, voilà. Alors il y avait au niveau des ouvrages, on sait qu'en Allemagne, il y a eu ces autodafés. Les années 30, où on brûlait tous les livres interdits, nombreux. Alors en France, il y avait la liste Otto, O2TO, édictée le 28 septembre 1940, et qui donnait une liste. Alors, on ratissait large, il y avait à peu près 2000 ouvrages interdits. Tous ceux qui étaient à auteurs juifs, écrits par des juifs, ou qui parlaient de juifs, et puis les auteurs anglais, alors peut-être pas encore américains en 40, parce que les Américains n'étaient pas encore dans la guerre, mais enfin c'était quand même les anglo-saxons. Alors les Azous, justement, au contraire, ça faisait partie aussi de leur... c'était quand même assez léger. Ils se procuraient chez les bouquinistes, ils arrivaient à trouver tous ces ouvrages interdits. Hein. Donc, ils affichaient une admiration pour la littérature anglo-saxonne. Alors, on peut citer les auteurs anglo-saxons qui étaient mis au pilori et prisés par les Azous, Somerset Maugham, Cronin. Alors Barnfield, voilà. Et puis il y avait Charles Morgan avec deux livres phares, Fontaine. Alors je n'ai pas bien vérifié, j'ai pas bien, mais bon, je note les titres, la teneur des ouvrages, et notamment Sparkbrook, hein, Sparkenbrook, qui était un peu, alors là, à voir le contenu, c'était la Bible. C'était le livre phare des Azous, ouais. Bon, qui prônait, je pense, la libération des mœurs, etc. Et donc, ils avaient été quand même suspectés par certains, notamment collaborationnistes dans la presse, notamment. On les suspectait de gaullisme. Derrière ce fétichisme Azou, eh bien, on parlait papou aussi, donc on les suspectait d'être. D'être des gaullistes qui se cachaient. Hein. Alors, ils pratiquaient aussi, semble-t-il, quand même le marché noir. Hein, il y avait un site sur les Champs-Élysées, fréquenté par ces Azous, mais aussi où on pratiquait le marché noir. Alors, il y avait le Colisée, c'était leur bar de prédilection, le Colisée. Et donc. Et le pam-pam aussi. Voilà. Et donc, on y pratiquait, je répète. Ils avaient un certain niveau quand même, à grande échelle, enfin, le marché noir, on gagnait c'était quand même pas très, dans une période de restriction, quoi. Alors, on a l'ordonnance de là, c'était plus, peut-être un peu plus conséquent, l'étoile jaune qui apparaît avec l'ordonnance du 29 mai 1942, donc les juifs français doivent porter une étoile jaune au revers de leur veste, là. Est bien visible. Et alors là, ils pratiquent un petit peu. Là, c'est quand même plus sérieux. Hein. On voit des Azous qui utilisent l'étoile jaune avec Zazou écrit sur le jaune ou Goy, voilà, par provocation. Hein. Alors là, il y a eu quand même des. Je l'ai évoqué, il me semble qu'il y a eu quelques rafles. Ils ont été emmenés à Drancy, mais ils ont été relâchés. Hein. Ils ont été relâchés. Ils s'en sont bien tirés. Par contre, il y a eu des peu, pas excessifs, mais ils ont été victimes, alors là, de brimades, pas mortelles, quoi, à l'époque où on déportait et où on exécutait, on chassait les résistants, les premiers résistants. Et en 1942, c'était élargi, hein, le champ, bien sûr, de la résistance. Où on mourait, voilà, on torturait, etc. Alors, il y avait par exemple le chef des jeunesses françaises, quoi, Vauquelin, qui, avec ses équipes, eh bien, ils ont tabassé quelques Azous, hein, qui n'avaient pas pu prendre la fuite assez tôt, aux abords du Pam Pam ou du Colisée. Et puis, il y avait eu une rafle, alors par la police, alors c'était plutôt caricatural. Avec la tondeuse, alors on les tondait, bon, c'est... Et puis il y avait aussi des rafles vraiment marginales, on les emmenait à la campagne, peut-être quelques dizaines d'individus, hein, pour travailler aux moissons. C'était les Azous au champ, voilà. Alors il faisait très chaud à l'époque, quoi, mais bon, c'était pas tragique, je pense que... Voilà. Alors en 1942, il y a une certaine... On situe la fin du phénomène, hein, voilà. Mais il y aurait une évolution quand même, ils disparaîtront comme ils sont venus, un phénomène éphémère. Il y aura quand même une survivance, j'en ai parlé, après la guerre, il y aura par exemple Boris Vian, on sait, et puis la muse Juliette Gréco, les caves de Saint-Germain-des-Prés, où on danse, où là c'est la liberté, la libération, le défoulement, hein, dans les scènes de... sur les scènes de music-hall aussi. Il continue dans les caves surtout d'exister. Alors on parle de deux personnalités, deux vedettes qualifiées de zazou. Yves Bontemps, qui chante en 44, en février 44, parce qu'il a un style cow-boy avec une veste à carreaux, on le qualifie de zazou. Et c'est surtout quand même Jean Marais qui est dans le collimateur. Jean Marais, en février 44, il joue Andromaque, alors au théâtre Édouard VII. D'ailleurs, je pense que, il me semble qu'on en a vu des extraits. Il était vraiment pas bon hein, dans les débuts, hein, Jean Marais. Et donc, lui aussi, il avait un peu le look zazou. Et donc, la pièce est descendue en flèche. Et finalement, elle est interdite hein, par les autorités. Alors là, il est carrément caricaturé comme un être en pleine dégénérescence, dévirilisé, etc. Et donc, on interdit la pièce. Alors je vais donner quelques citations sur les attaques, notamment de la presse, notamment dans la Francisque, journal collaborationniste du 10 juin 1944, qui fait une charge contre Jean Marais. Alors, bien sûr, il était homosexuel. Jean Marais, à l'époque, c'était caché, mais que ça a été révélé plus tard. Mais c'était quand même pas un être efféminé, on le sait, puisqu'on l'a vu plus tard. C'était un peu comme Belmondo, il faisait des cascades dans la série des Fantomas, hein, c'était un grand sportif, hein, voilà. Homosexuel mais viril hein, quand même. Voilà. Donc je vais donner peut-être quelques éléments, il est peut-être temps je pense là pour le coup, oui, de faire une brisure, une respiration. On va donc vous passer Je suis swing, j'en ai parlé, de Johnny S. Hein. Peut-être un deuxième titre si on a le temps. Je suis swing, Johnny S. 3 minutes.
La musique nègre et le jazzote sont déjà de vieilles machines. Maintenant, pour être dans la note, il faut du swing. Le swing n'est pas une mélodie, le swing n'est pas une maladie. Mais aussitôt qu'il vous a plu, il vous prend, il vous lâche plus. Oh, je suis swing, je suis swing. Zazou, 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 yeah. Je suis swing, oh, je suis swing. C'est fou ce que ça peut briser. Quand je chante un chant d'amour, je le pimente d'un tas de petits trucs autour. Je suis swing, je suis swing. Zazou, zazou, c'est gentil comme tout. Afin de chanter à l'opéra, j'allais voir le directeur. Je voulais chanter la Traviata en ré majeur. Il m'a d'abord interrogé, est-ce que vous êtes ténor léger, basse chantant ou baryton? J'ai répondu, ah mais non, je suis swing, je suis swing. Zazou, 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 zazou. Je suis swing, ah, je suis swing. C'est fou ce que ça peut me viser. Quand je chante un petit refrain, j'épouvante la concierge et les voisins. Moi, je suis swing, je suis swing. Zazou, zazou, je suis heureux comme tout. J'ai pour maîtresse Béatrice, je suis le père de son enfant. Avec Simone, j'ai eu deux fils en un rien de temps. Le mois dernier, avec Zouzou, j'ai eu quatre enfants d'un seul coup. C'est pas que je le fasse exprès, seulement qu'est-ce que vous voulez? Je suis swing, je suis swing. Zazou, 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 yeah. Je suis swing, oh, je suis swing. C'est fou ce que ça peut me griser. Un spirite me l'a révélé, c'est le rythme qui fait ainsi m'emballer. Oh, je suis swing, zazou, 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 je m'amuse comme un fou.
Voilà, je suis swing, Johnny S, cette émission Histoire de France est d'ailleurs consacrée aujourd'hui aux zazous.
Donc quelques descriptifs que j'ai noté sur des caricatures. Donc ils avaient les épaules larges mais tombantes au niveau de la mode, chemise blanche, le veston long jusqu'à mi-cuisse, voilà. Alors les cheveux étaient plutôt en brosse, huilés, hein, voilà. Et donc épingle, le col était droit, un grand col, retenu par une épingle de cravate, et la cravate était très étroite avec un tout petit nœud. Alors on trouve aussi, ils avaient des pantalons courts, étroits, des bretelles, on la montre à l'envers, ça, bon. Les chaussures de daim, marron, pour ceux qui pouvaient, parfois on dit des chaussures carrées, enfin, le chapeau en arrière, ils avaient aussi, comment dire, le parapluie, mais il était toujours au fourreau, le parapluie. C'était même qu'ils aimaient la pluie, quoi. Donc même en période de pluie, on sortait pas le parapluie, quoi. Voilà. Ils avaient une démarche traînante, des grandes enjambées, le buste penché en avant, le pas long. Donc les chaussettes blanches, hein, voilà, voilà. Et donc ces silhouettes vraiment originales, extravagantes. Voilà. Alors, quelques descriptifs, notamment dans la presse. Alors, par exemple, je citerai ici, à propos, c'est de Charles Delaunay, qui était donc le fondateur et le secrétaire général du Yacht Club. Donc, un club de jazz, une association de jazz, mais pure, si on peut dire, puriste. Et lui, il stigmatise, entre guillemets, cette jeunesse turbulente et sans éducation qui, sous prétexte d'être swing, se croit permis les pires excès. Alors, ils sont donc nos jeunes swings, ils sont sous le tir croisé des défenseurs du jazz, musique de qualité, et des contempteurs de la musique nègre dégénérée. Donc, aussi bien les puristes que les autorités allemandes et les autorités pétainistes, hein, de Vichy. Alors, ces petits swings, c'est génial, se rendre insupportable. Citation. Pour plus de précision, donc on lit dans l'hebdomadaire Jeunesse. Je pense que c'est forcément un hebdomadaire de collaborationniste, hein, puisqu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient exister. Alors, voici, je cite, le spécimen de l'Ultra Swing 1941. Cheveux dans le cou, entretenus dans un savant désordre. Petite moustache à la claque guébole, veste de tricot sans revers, pantalon rayé, chaussures à semelles très épaisses, démarche syncopée. Les descriptions varient un peu, mais ce qui ressort, c'est l'extravagance. Voilà. Pendant les numéros de d'orchestre, il s'agite, se lève, danse, il lance des avions en papier, il pousse des cris d'Indien Sioux. Donc un certain Walter Rummel, pianiste d'occasion et journaliste des circonstances, lâche les chiens dans Paris Midi. Le jazz et le swing sont les fléaux de l'Europe nouvelle. Voilà. Alors je citerai aussi, donc par exemple, dans l'Illustration, mais sur toujours un journal vichysois, enfin, voilà, ou vichiste, citation de l'auteur. Autour des tables, on les reconnaît aisément. Les hommes portent un ample veston qui leur bat les cuisses, des pantalons étroits, foncés, sur de gros souliers non cirés, une cravate de toile et de laine grossière. Mais, comme si cela ne suffisait pas à les distinguer de tant d'autres Parisiens, ils lustrent à l'huile de salade, faute de matière grasse, leurs cheveux un peu trop longs, qui descendent à la rencontre d'un col souple, maintenu sur le devant par une épingle transversale. Cette tenue est presque toujours complétée par une canadienne, dont ils ne se séparent qu'à regret, et qu'ils gardent volontiers mouillée, car ils ne sont vraiment eux-mêmes que sous la pluie. Obéissant en cela à l'un des rites qui leur sont chers, ils traînent avec délice leurs pieds dans l'eau, crottant leurs pantalons, exposant aux averses leurs cheveux touffus et gras. Quant aux femmes, elles cachent sous les peaux de bête un chandail à col roulé et une jupe plissée fort courte. Pour l'époque, hein, c'est pas encore la mini-jupe au niveau des genoux, hein, mais à l'époque c'est court. Leurs épaules exagérément carrées contrastent avec celles des hommes qui les portent tombantes. De longs cheveux descendent en volute sur leur cou. Leurs bas sont rayés, leurs chaussures plates et lourdes. Elles sont armées d'un grand parapluie qui, quel que soit le temps qu'il fasse, reste obstinément fermé. Alors là, je vais vous donner la charge un peu quand... Alors, à propos d'Yves Montand et de Charles Trenet, mais qui viennent un petit peu après, hein, après le phénomène. Alors, Yves Montand, en 1944, Là, il est, pourtant, il n'est pas du tout zazou, mais au début, il chantait des chansons plutôt de cow-boy. Hein. Et puis, c'est après sa rencontre avec Edith Piaf, il a évolué. Hein, vers, il est sorti de ce carcan un peu. Mais il était qualifié de zazou en février 1944 parce qu'il porte les cheveux longs. Et décoloré, donc, alors Yves Montand, c'est uniquement ces airs de Far West qui font un peu la confusion. Par contre, c'est Charles Train, Jean Marais, je veux dire, qui lui, célèbre à l'époque, porte des cheveux longs et décolorés. Donc, il reçoit le dernier volet de bois vert de l'épopée Zazou. Il joue l'Andromaque de Racine au théâtre Édouard VII. Je pense que c'est une adaptation hein, modernisée d'Andromaque de Racine. Alors la milice se manifeste et réussit par une intervention profondément révolutionnaire, entre guillemets, à faire interdire la pièce. Acteur surfait, donc c'est une citation, et prétentieux, Jean Marais devient le héros involontaire d'un ultime morceau de bravoure. Voilà. Donc on cite encore Jean Marais représente de façon par trop voyante une jeunesse zazou et dépravée, mais là on est en 44, mais bon, c'est la fin, c'est un peu a posteriori quoi, honteusement dévirilisé. C'est le plus bel exemple de dévirilisation décadente que l'on puisse trouver, et qu'un tel personnage se soit attaqué à l'un de nos plus immortels chefs-d'œuvre pour le déformer est un acte de vandalisme. Enfin, donc c'est dans La Francisque, hein, voilà. Journal bien sûr de pro-Vichy, mais de toute façon il n'y avait que, il n'y avait pas de journal d'opposition hein, en dictature. Enfin, nous espérons qu'après cette décision énergique, la mesure d'interdiction, l'activité de la révolution de la scène ne va pas s'arrêter là. Donc c'est dans le journal La Francisque du 8 juin 1944. Et on est déjà proche de la fin pourtant, puisque le 6 juin 1944, c'était le débarquement en Normandie. Donc les Zazou rentrent dans l'histoire de façon très éphémère. Bon, et ils disparaissent. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il me reste encore combien de temps. 10 minutes 5 minutes. Bon, 10. Bon, ben, alors j'ai un peu de temps. Je pense que tout simplement, on va passer le. À propos de Jean Marais, on ne sait quand même pas. Il incarnait pas quand même. C'était quand même l'homme très masculin. C'était pas. On le sait, puisque c'était un grand sportif, il s'est révélé comme tel. Et son homosexualité était cachée à l'époque. Elle a été révélée après, encore qu'il y avait son sa liaison connue. Avec Cocteau, donc finalement c'était pas si discret que ça, mais c'est plutôt après la guerre qui s'est révélée. À l'époque il était tout jeune d'ailleurs, 18 ans, et d'ailleurs on le voit en tant qu'acteur, je me souviens avoir eu des extraits, là il était assez nul, je veux dire, au début, c'était assez pitoyable, hein, voilà. Mais bon, il s'est plus qu'amélioré après, donc... On va écouter donc un deuxième titre, alors je pense que ça sera Andrex, hein. Il y a des Zazou. Voilà.
Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir ou jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les Zazou. C'est les Zazou. Un faux col qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le Zazou, voilà le Zazou. Il y a des Zazou dans mon quartier. Moi je suis déjà à Poitiers. À votre tour, un de ces jours, vous serez tous Zazou comme eux, car le Zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain, brusquement, et puis on pousse des hurlements. Voilà la didoula, si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un Zazou, c'est un Zazou. Si votre épicier vous dit j'ai du gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, eh ben ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est Zazou, il est Zazou, il y a des Zazou dans mon quartier. Moi je suis déjà à Poitiers. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur gendre avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est zazie. Elle est zazie. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de gare qui m'a dit, mon cher, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis zazie. Je suis zazie. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. Ouais, la didou, didou, là. Ouah, ouah. À la société, devant payer sa dette, devant la guillotine, Gégène a dit, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Zazou, je suis Zazou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui a réussi, car pour ses 25 balles, il est Zazou, il y a des Zazou dans mon quartier. Moi, je suis déjà à Poitiers. Et à mon tour, un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Zazou, on s'y retrouvera. Et c'est fou ce qu'on rigolera. Quand la douche, mon chanteur, a comme ça. Ouais, de la vie, je vous de la voir, ouais.
Eh ben oui, c'était plutôt gay, hein, ces chansons. Il y a des Zazous, eh bien c'était Andrex, puisque les Zazous, avec René-Joseph Irmana, eh bien, c'est le thème d'aujourd'hui.
Donc, c'était quand même un petit peu, je trouve, en porte-à-faux, comme indiqué. Bien sûr, sans adopter le ton des journaux de l'époque, notamment du chef des jeunesses communistes que j'ai cité, qui parlait de d'une jeunesse honteuse, dégénérée, ça posait, je pense qu'ils étaient un petit peu, dans un espèce de décalage, enfin, alors quand même il y avait la souffrance, il y avait la restriction, en plus le froid, on crevait de faim, la persécution des juifs, des résistants, et eux, ils s'affirmaient un peu comme une jeunesse un peu peut-être pas dorée, mais qui voulait leur liberté, leurs aises, qui était contre l'ordre moral. C'était un combat, je trouve, enfin, c'est ce qu'on peut ressentir, un peu décalé. Donc, par exemple, en 1942, donc, il y a eu on voulait cette renaissance nationale de Vichy, notamment avec l'appel aux jeunes. Il y avait les chantiers de jeunesse qui ont remplacé l'armée, qui voulaient exprimer cet idéal de viril, sportif, etc. Alors ils deviennent un peu l'ennemi public, enfin c'est numéro un, bon, notamment par les jeunesses fascistes. J'en ai parlé, les jeunesses populaires françaises, JPF, alors qu'il y avait un slogan « Scalper les Zazous ». Donc, au pire, on les passait à tabac, au mieux, on les tondait, quoi. C'était la tondeuse. Mais bon, c'était pas tragique, bon, c'était juste une humiliation. Donc, ces jeunes de JPF les attaquaient. Il y a eu quand même des rafles dans les bars où les Zazous se rassemblaient, et donc il y a eu quand même des tabassages. Certains fûts, on en a parlé, bon, peut-être quelques dizaines, arrêtés et envoyés à la campagne pour travailler au champ. Alors les jeunes filles Zazous aussi, elles sont à l'opposé du modèle de Vichy, qui est la femme au foyer, la mère de famille. Alors elles sont très fardées, les yeux bleutés, les lèvres rouges, vieille fourrure, poussiéreuse, hein, voilà. Donc ils entrent un peu dans la clandestinité, ils se terrent dans leur salle de danse, ils ont fait aussi du marché noir pour certains, on l'a vu, ils veulent leurs aises, la liberté, mais je sais pas, c'est ce qu'on peut ressentir, c'est un petit, on ressent une petite gêne quand même, hein, voilà. Tandis que la résistance communiste officielle les soupçonne d'adopter une attitude apathique, désinvolte, et on les qualifie quand même de gaullistes, mais je pense que c'est excessif. Voilà. Et le 21 avril 1944, lors de la réunion de la LVF, Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui vont combattre sur le front russe, au Veldiv, on sait ce qui s'est passé aussi au Veldiv, donc, et là c'était Jacques Doriot qui déclare, après avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire, c'était bien sûr le collabo, parfait, la plus grandiose de l'histoire humaine, et faire le Zazou, physiquement, moralement, quelle décrépitude, quelle déchéance. Mais bon, on ne sait pas trop où est la décrépitude, hein, hélas, et la déchéance n'est pas là où... elle est dénoncée, quoi. C'est plutôt celui, hélas, qui dénonce, qui est au sommet de l'indignité, quoi. De la honte, voilà. Donc ils seront réhabilités un peu ces azous. Et puis je répète, ils auront une survie après la guerre. Et notamment, on citera Boris Vian, qui était un peu zazou. Lui, sans en avoir tous les codes, mais il avait une... C'était une résurgence un peu des azous avec tous ces personnages d'après-guerre, on le sait, dans les caves, le jazz, Juliette Gréco, le couple Sartre, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, enfin, etc. Hein, voilà. Là, on s'en donne à cœur joie, mais là, c'est normal, puisque c'est comme toutes les périodes qui sortent des guerres, des restrictions. C'est la libération totale. Alors je ne sais pas si je arrive un petit peu toujours là je suis alors j'ai peut-être envie, on vous a passé Andrex qui a des azous, on vous a passé aussi Johnny S, hein, on va peut-être le passer si ce n'est fait. Et bien ça, d'ailleurs c'est bon d'illustrer, hein, par des musiques, par un fond sonore, par plus qu'un fond sonore, par une illustration sonore. Alors toujours Johnny S, qui était le compagnon de Charles Trenet à ses débuts, ils sont zazou. Voilà. On se retrouve dans 3 minutes pour conclure.
Les cheveux tout frisottés, le col haut de 18 pieds, ah, ils sont zazou. Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne par terre. Oh. Ils sont zazou. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu au-dessus des genoux. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, ils ont un parapluie, des grosses lunettes noires et puis surtout. Ils ont l'air dégoûtés de tous ces petits agités. Oh. Ils sont zazou. Un jour, un brave notaire de son pays débarquant venait pour de grosses affaires de l'aigle et de testament. Il a fait l'allure très digne, mais comme les modes de maintenant ont à peu près la même ligne que celle de 1900. De jeunes zazous s'écrièrent en l'apercevant. Ce qu'il fait distinguer son col haut de 18 pieds. Oh. Puisqu'il est zazou. Il a ce brave notaire, le veston qui traîne par terre. Oh, ce qu'il est zazou. Il ne se doutait pas, ce très digne notaire, qu'il pouvait être à ce point zazou. Car tous ses vêtements lui venaient de son grand-père, le col de veston et tout. Il fut tout étonné de se voir ainsi remarqué par... Mais tous les zazous. De retour chez lui, le notaire sidérait tous ses amis. Il ne marchait que le doigt en l'air, mais bientôt ce fut bien pis. Cette maladie prit sa fille, sa femme, son clerc, son doudou. Enfin toute la famille, tout le monde devint zazou. Dans le pays, quand ils se promenaient, on les croyait fous. En les voyant passer, les braves gens s'écriaient, tiens, voilà les zazous. Après mûre réflexion, le docteur en consultation dit « Mais ils sont zazou. » C'est une maladie un peu particulière, bientôt il n'y paraîtra plus rien. Avec une bonne cure de polka de nos grands-mères, puis se regardant il dit « Tiens, mes cheveux tout frisottés, mon col haut de 18 pieds, mais je suis zazou. » Comme le notaire, mon veston traîne par terre, mais je suis zazou. Et si ce n'est qu'une question vestimentaire, je suis le plus zazou d'entre nous. Car ma redingote traîne jusque par terre, je ne vois qu'à remettre en coupe et tout. Docteur avait compris que là se tenait l'esprit de tous les zazous.
Johnny Ace, eh bien, on conclut cette émission consacrée aux azous aujourd'hui.
Donc, au titre de l'épilogue, si on peut dire, je vous donne un petit texte comme ça qui est dans cette revue des grands écrivains à propos de Boris Vian, consacré à Boris Vian, et qui nous servira de conclusion. Alors, Paris, le 10 juin 1947, le Tabou Club de la rue Dauphine est plein à craquer. donc après la guerre. Le bon vieux pick-up vient d'être remplacé par un orchestre. Quel orchestre ? Celui de Boris Vian, très grand, très beau. Boris est trompette. À ses côtés, son frère Alain et plusieurs musiciens de formation de leur ami Claude Abadie. Dans la salle surchauffée, on reconnaît les vieux amis de Saint-Germain des Prés, Jean-Paul Sartre, Raymond Queneau, Juliette Gréco, Mouloudji, Albert Camus. On boit, on rit, on plaisante. Tout le monde danse le jetpack et le swing. Le jazz, musique de la liberté, a fait sa véritable entrée dans Paris. Tous ces jeunes gens l'ont accueilli à bras ouverts. Après les quatre aînés noirs de l'occupation, aujourd'hui tout est permis et tout semble possible. Ils ont la vie devant eux et se déchaînent dans ces caves qui, naguère, servaient d'abri. Ils s'aiment sans lasse, chahutent, plaisantent. Ils sont beaux, ils sont drôles. Ils sont libres, les azous de ces nouvelles années folles. Les nouveaux azous, en quelque sorte, derniers nés de la vieille famille des excentriques. Ils ont leur pape, Boris Vian. Voilà, c'est donc l'insolence de la jeunesse qui est in fine victorieuse, quoi, qui remporte la jeunesse triomphe. Donc, je pense qu'on va vous passer le générique de fin. On se retrouve mardi pour une nouvelle émission, une nouvelle rencontre. J'ai envie de vous donner mon adresse mail pour vos observations, le cas échéant, vos suggestions. Je le fais parfois, guy.feuillet, F-E-U-I-2-L-E-T, @orange.fr. Guy, le prénom, .feuillet, F comme François, E-U-I-2-L-E-T, @orange.fr. Eh bien, à mardi, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.